Introduction à la reconstruction des manuscrits, non édités et non corrigés de Fox, page 1 sur 1. Préface. Vous pourriez trouver intéressantes trois pièces, également disponibles sur ce site. Une photographie d'une page du journal imprimé de Cambridge de 1911, une curiosité en soi et un peu difficile à comprendre. Une photographie d'une page du manuscrit original, vous donnant une idée de la difficulté à créer un journal lisible, ce dont Elwood et Penney doivent tous deux être félicités et remerciés. Une copie de la signature de George Fox, cliquez ici pour voir les pièces. Introduction, y compris l'histoire du journal, au journal de George Fox, connu sous le nom de The Cambridge Journal, en deux volumes édités d'après les MSS, manuscrits par Norman Penney, FSA, avec une introduction par T. Edmund Harvey, M.A. Député pour West Leeds Cambridge, à L. University Press 1911, note des éditeurs du site. Le Cambridge Journal est différent du journal officiel de George Fox, publié depuis 1694. Ce journal, publié en 1911, est une reconstruction à partir des manuscrits originaux écrits de la main de George Fox, sans rien omettre. Seul le volume 1 est disponible sur ce site en téléchargement au format PDF. Le volume 2 du Cambridge Journal est disponible en lecture seulement, téléchargement restreint à l'adresse suivante, https://babel.hashitrust.org/gpt-id-uquin. 30 106 milliards 6 426 594 view 1 obsec 13. Cette introduction met en évidence les principales omissions. Lorsque vous voyez une référence à un texte modifié ou supprimé suivi de I. 43, cela signifie volume 2, page 43 du Cambridge Journal. Sachez que toutes les spéculations ci-dessous sur les raisons pour lesquelles le texte a été omis sont exactement cela, des spéculations, des suppositions, qui ne sont pas concluantes. Nous avons ajouté le texte manquant et, lorsque l'introduction y fait référence, les liens vers le texte cité vous mènent directement au passage dans son contexte au sein du journal, en cliquant sur le texte de couleur bleu clair, par exemple I. 183. Nous sommes également en train de revoir l'intégralité du Cambridge Journal afin d'y inclure des informations pertinentes, non mentionnées ci-dessous, mais suffisamment importantes pour être ajoutées au journal sur ce site. En lisant le journal sur ce site, le texte qui avait été omis mais qui figure dans le Cambridge Journal est inclus entre accolades CAD. Si un texte omis a été retrouvé, ainsi, le journal sur ce site est unique. Le Morning Meeting, Quaker, agissant comme un organe de censure, a supprimé nombre de lettres très vigoureuses de Fox, des miracles et des remarques sur la lumière. Je trouve les omissions suivantes bien plus importantes que celles décrites sur cette longue page par les éditeurs de ce livre, à un ami convaincu mais non purifié, manifestement trop fort, concernant la parole, manifestement trop fort, ceci est la parole du Dieu vivant pour tous les gens dispersés au loin, manifestement trop fort, Fox demandant une messe pour son cheval. Manifestement trop humoristique et trop fort dans la conclusion. Lorsque George Fox rendit son dernier souffle dans la maison de Henry Gouldney, le bon marchand de Gracechurch Street, la société Quake, qui avait commencé son voyage au milieu de la tempête de la persécution, passait déjà dans des eaux plus calmes. Les peines des anciennes lois pénales avaient disparu avec l'acte de tolérance, et la nouvelle paix était bienvenue pour des hommes qui avaient blanchi dans des emprisonnements constants. Les anciens critiques restaient actifs et de nouveau se joignirent à eux. Faldo, Leslie et Bug écrivaient de violentes diatribes pour prouver de manière convaincante que les Quakers n'étaient pas des chrétiens, mais il semble que ce ne fut plus l'opinion généralement admise. Le manteau de respectabilité qui, si souvent, étouffe l'esprit de prophétie commençait déjà à s'envelopper autour de la société des amis. On partit pour se prémunir contre le danger d'un enthousiasme non contrôlé par autre chose que le sens individuel de la responsabilité, en partie pour exprimer la relation collective de la communauté Quake avec ses prédicateurs ou amis publics. C'est instaurer la pratique voulant que toute littérature imprimée à caractère religieux publiée par des auteurs Quake soit d'abord soumise au jugement de leur père pour avis et aux besoins correction, en la présentant à une réunion composée des ministres et anciens Quake. Elle se tenait à intervalles réguliers le deuxième jour de la semaine et était connue sous le nom de « Réunion du matin du deuxième jour » ou « La réunion du matin ». Cet organisme, dont les procès-verbaux depuis son origine existent encore à Devonshire House, bien que ne possédant qu'une autorité morale, en vint assez vite à exercer une censure très attentive sur la littérature Quake et assez souvent des brochures qui lui étaient proposées pour impression, dans de nombreux cas sans doute aux frais généraux étaient renvoyées à leur auteur pour correction, ou après lecture par une commission, jugées impropres à la publication et mises de côté. À cette réunion échut naturellement l'importante tâche de préparer pour l'impression les nombreux écrits que George Fox laissa derrière lui, dont beaucoup, il avait expressément souhaité la publication, et au premier rang desquels figurait le « Great Journal », qu'il avait préparé dans le but de donner un récit fidèle de son ministère public et de son expérience religieuse. Il ne fait guère de doute que les années calmes de 1675 à 1677, qu'il passa à Swarthmore, furent largement mises à profit pour rassembler des manuscrits épars et pour mettre à jour cette autobiographie religieuse unique, que l'on suppose avoir été commencée pendant son dernier long emprisonnement à la prison de Worcester en 1673-74, lorsque son gendre et compagnon de captivité Thomas Lowe lui servait de scribe. Le fait que des notes complètes des deux procès de Fox à Lancaster, fondées sur des comptes rendus verbatim, se trouvent dans le journal, confirme l'idée qu'il fut compilé sous sa forme actuelle à Swarthmore. La tradition selon laquelle le journal fut à l'origine dicté dans la prison de Worcester est corroborée par le grand nombre de documents relatifs au procès et à l'emprisonnement de George Fox là-bas, qui sont inclus dans les manuscrits originaux. Le journal proprement dit cesse peu après, laissant Fox à Swarthmore, et dans l'un des écrits qui suivent apparaît l'expression « Et pourtant la vérité du Seigneur est au-dessus de tout, et sa semence règne, et sa vérité se répand grandement, jusqu'à cette année 1676. » Il y eut sans doute un certain nombre de brèves notes et de lettres dont l'éditeur de Fox fit ensuite usage pour préparer le journal pour la presse, et qui n'ont pas été conservées. Mais il est regrettable que par souci d'uniformité, il ait jugé souhaitable de donner au récit des dernières années de Fox la forme d'une narration à la première personne, comme il l'avait fait pour les documents à partir desquels est composée la partie du journal traitant de la visite de Fox en Amérique. Les lecteurs du journal imprimé ont presque toujours dû observer la nette baisse d'intérêt dans la dernière partie du second volume et ressentir l'absence de ces petites touches vivantes qui éclairent les premières pages. Nous voyons maintenant que cette partie tardive n'est pas l'œuvre de Fox au même sens que le sont les premières pages, bien qu'elle fournisse un résumé utile des activités de ces dernières années, le journal proprement dit se clôt en 1675. Il est profondément regrettable que le manuscrit, tel que nous l'avons aujourd'hui, soit dépourvu des pages d'ouverture donnant le récit des premières années de George Fox, et l'on peut espérer qu'un jour celles-ci pourront être retrouvées. Mais malgré cette perte, le nouveau matériau fourni par les parties du manuscrit omises dans les éditions précédentes est d'un grand intérêt. Ah, on peut aussi noter que le Short Journal se termine en 1664, lorsque Fox avait passé environ un an dans la prison de Lancaster. Il ne faut pas supposer que le journal, tel que nous le connaissons par les éditions imprimées antérieures, ait été préparé sans grande réflexion. Des documents existants montrent combien de soin fut apporté à sa première publication. Il était nécessaire que les matériaux fournis par George Fox soient soigneusement édités, car les divers manuscrits contenaient un certain nombre de répétitions, tandis qu'ici et là des personnes étaient mentionnées dont la citation des noms pourrait offenser des gens encore en vie. En 1685, Fox lui-même avait pris des dispositions soigneuses pour l'édition de ses papiers et l'assemblage de son « Great Journal » et d'autres ouvrages, notant qu'il y avait beaucoup d'erreurs et de fautes dans l'impression et l'écriture, qui pouvaient être corrigées. Par des dispositions ultérieures, il prit d'autres mesures pour mettre en œuvre cette intention, léguant ses livres et papiers à ses beaux-enfants William et Sarah Mead, ainsi qu'à Thomas Lowe. Note des éditeurs du site, l'auteur ci-dessous cite les écrits des Quakers au XVIII siècle avec des orthographes alors différentes des actuelles. Par intérêt, j'en ai conservé quelques-unes ci-dessous. Vous remarquerez que le mot de s'écrit, you is them s'écrit à un, that s'écrit y et g. Fox s'écrit g, Fox et d'autres orthographes sont employés pour certains mots, mais vous devriez pouvoir les prononcer pour les reconnaître. Maintenant que vous êtes prévenu, vous ne serez pas alarmé par les fautes apparentes. La Morning Meeting avait été chargée, par une lettre posthume de George Fox, de la tâche de poursuivre sa correspondance sur des questions religieuses avec les amis dans différentes parties du monde, ce qui lui conféra sans doute une influence supplémentaire à d'autres égards. Peu après sa mort, la réunion commença à préparer une collection de lettres et de témoignages concernant Fox et à rassembler ses lettres et manuscrits provenant de différentes régions du pays. Le 14 du 1 mot, 1691-2, une note est inscrite au procès-verbal de la réunion, qu'il soit examiné et recherché ce qui est fait et ce qui doit être fait concernant les livres et papiers de G. Fox. La réunion avait manifestement déjà pris des dispositions pour leur édition, car à la séance suivante 4. Y 1692, on trouve dans les minutes l'inscription suivante, Stephen Crisp est prié d'écrire à Thomas Elwood afin d'obtenir de lui, avant la prochaine réunion, une réponse sur l'état des papiers de G. F. Et pour savoir si une partie ne pourrait pas être envoyée ici pour que les amis d'ici la relisent et la mettent sous presse pendant que l'autre se fait. La semaine suivante figure l'entrée, deux lettres de The Elwood à Stephen Crisp concernant le cher Journal de G. Fox, donnant compte qu'il a transcrit environ 200 feuillets et a passé plus de temps à les examiner et les comparer qu'à écrire, en raison de quoi il n'est pas allé plus loin que 1666, et désire savoir s'il doit apporter ce qui est fait maintenant ou à la Yale Meeting. Cette dernière option est retenue parce qu'il ne peut avancer s'il les envoie. S. Crisp est prié de lui répondre et de lui demander d'être ici quelques jours avant la Yale Meeting et d'apporter avec lui, en diligence ou autrement, les écrits. Nous apprenons ainsi que le travail principal de transcription et de préparation pour la presse des divers manuscrits dont est composé le journal imprimé avait déjà été confié à Thomas Elwood, sans doute avec l'assentiment des légataires de George Fox. Le choix était judicieux, l'un des anciens élèves et amis de Milton était un homme d'une érudition considérable et dans sa maison de campagne à Ranger Hill, près de Beaconsfield, dans le Buckinghamshire, il pouvait consacrer à sa tâche tout son temps sans interruption. Ce n'était pas un petit travail, puisqu'il impliquait la lecture d'une masse de papier et l'assemblage de documents disjoints dont est composée la partie tardive du journal. La Morning Meeting décida du titre de l'ouvrage le 6 du 4 mots. 1692, comme il est inscrit dans les minutes, l'entrée étant la suivante, « The History of G. F. S. Journal and Progress in Ye Lord's Work entitled The Everlasting Gospel Preached Again, and Truth's Progress in the Latter Day, Powerfully Witnessed in the Great Labour Travels Trials and Sufferings, of the Rentien F. Faithful Servant and Minister of Christ, George Fox the Elder who departed this life in peace, E. 13 th day of the 11 th mo. 1691. Puis le texte scripturaire suivant, cité sur la page de titre imprimé, et l'entrée conclue, Agreed to be put to the press as soon as conveniently may be. Et 1694 arriva et l'ouvrage n'était toujours pas prêt pour l'impression. La réunion exprime dans ces minutes sa préoccupation face au retard, et des amis sont délégués pour communiquer avec William Meade afin de presser la nécessité d'une plus grande célérité. Meade est apparemment réticent à laisser les feuillets être lus par la réunion tant que son beau-frère Thomas Lowe ne serait pas à Londres, souhaitant peut-être que Lowe, en tant qu'amanuensis si original de Fox, ait le dernier mot pour décider de la fin. Enfin, l'ouvrage fut prêt à être relu, et le 12 du 4 mot, 1693, nous trouvons l'entrée de Friand Desired B.G. F.F. To view his journal are desired to meet this afternoon at this place about 4 hours to prepare it for the view of this 2-day meeting. Puis suit, 26 du 4 mot. 1693, the reading of G. F. Fox's journal to be begun about 8 hours in the forenoon next 5 day, and this meeting adjourned till then for the said service. À les nombreuses corrections manuscrites de Lowe montrent le soin et l'intérêt avec lesquels il révisa les manuscrits du journal. Les détails de la révision ne sont pas consignés mais, sans doute, de nombreux changements dans le texte furent effectués par, ou après consultation de la Morning Meeting ou de sa commission, comme l'indique le soin pris ensuite par la réunion d'omettre le passage inexact relatant un récit d'Ellen Fretwell, qui avait été imprimé dans les premiers tirages de la première édition, et pour lequel une autre feuille omettant l'incident fut substituée dans tous les exemplaires que la réunion put contrôler. Le 8 du 11 mot, 1693-4, George Whitehead rapporte à la réunion que la relecture du journal pour la presse est achevée. William Meade, qui conduit les négociations avec l'imprimeur et avance l'argent nécessaire pour commencer le travail, est toutefois mécontent de la préface de William Penn, et une réunion spéciale doit être convoquée à laquelle lui et Thomas Lowe sont invités, afin de lire la préface et de décider si elle doit être imprimée avec le journal ou avec un volume ultérieur des œuvres de Fox. Après plusieurs tentatives de concertation cependant, la commission du rapporté, W.M. Meade refuse to hear it read being resolved, it shall not be printed with the journal if he can help it. It's therefore agreed to deliver it to the author and inform him it may be printed way, was the agreement of this meeting formally. William Meade continua d'être assez difficile à gérer, car lorsque, un mois ou deux plus tard, une difficulté surgit quant à l'inexactitude du récit d'Ellen Fretwell et qu'il sembla souhaitable de réimprimer la page qui le contenait, il déclara qu'il ne considérait pas qu'il fût de son devoir d'en faire davantage et qu'il laisserait les amis faire comme ils le voudraient. Il est probable que c'est en raison de son opposition à l'impression de la préface de Penn avec le journal qu'un certain nombre d'exemplaires imprimés sont dépourvus de cette noble introduction, qui nous donne peut-être le portrait le plus saisissant et le plus attachant de Fox que nous ait laissé l'un de ses contemporains. Note en cliquant sur le texte bleu vert clair, vous serez dirigé vers le texte du journal afin de voir le texte omis dans son contexte. On verra d'après ces documents qu'une série de commissions éditoriales s'est occupée de la publication du journal, mais les minutes ultérieures de la Morning Meeting montrent des dispositions bien plus élaborées pour la collecte et la révision des œuvres doctrinales et épîtres de George Fox, publiées ensuite en 2 volumes en supplément du journal. Dans leur cas, la responsabilité est apparemment beaucoup plus largement partagée, le travail éditorial principal du journal ayant clairement reposé sur Elwood seul. En comparant, comme nous le pouvons à présent, la plus grande partie du manuscrit original avec la première édition imprimée, il nous est possible de prendre la mesure de la difficulté et de la responsabilité de la tâche qui échut à la plume d'Elwood. La compression et l'abréviation en furent une part nécessaire, et dans l'ensemble bien menée. Le portrait que le manuscrit du journal nous donne est essentiellement le même que celui de l'édition imprimée. Pourtant, en comparant les deux, on sent qu'ici et là le soin prudent de l'éditeur a fait disparaître quelques touches rudes et vigoureuses. L'ensemble est plus calme, un peu moins naïf, un peu plus proche du conventionnel. Parfois, un détail pittoresque que Fox avait noté disparaît comme superflu. Parfois, un incident ou une parole que des contemporains pourraient mal interpréter est omis. À l'occasion, une bévue évidente est corrigée. Et dans d'autres cas, la crainte de malentendus politiques ou théologiques a conduit à omettre des passages plus longs. Elwood était manifestement soucieux d'éviter de fournir des occasions d'attaque aux adversaires et, en conséquence, omet divers détails qui pourraient être pris pour des preuves de fanatisme. On en trouve des exemples dans la mention de James Neely étant « Under a fast 14 days » 51, le grand jeûne de Richard Robeson I. 105, Fox Sounding the Day of the Lord seul au sommet de Pendelil I. 40, et une autre fois passant la nuit dehors dans les champs I. 114, et encore Solomon Eccle jeûnant pendant 7 jours lors du voyage vers l'Amérique I. 184. 1-1 note des éditeurs du site, si le jeûne est une preuve de fanatisme, alors Paul, Jésus et Moïse sont coupables de fanatisme. Apparemment, le jeûne était étranger à M. Harvey et possiblement à Penney en collaboration de cette préface. Cela indique leur immaturité spirituelle et doit être gardé à l'esprit lorsqu'ils spéculent sur les raisons pour lesquelles des passages de texte ont pu être omis ou modifiés. Un désir semblable d'éviter d'offenser a probablement conduit à l'omission d'un passage, tel que le commentaire sévère de Fox sur le contraste entre la conduite des indépendants, des baptistes et des presbytériens à leurs débuts et après qu'ils eurent accédé à une position d'autorité durant le Commonwealth y. La prudence quick d'Elwood se manifesta en omettant fréquemment les références à la persévérance dans la foi des convertis, qu'il n'était pas toujours facile de vérifier, des formules telles que « They died in the truth » ou « Convincing stand to this day » ou « Romain Afrien to this day » furent ainsi supprimés de sa version imprimée. Et pour des raisons similaires, il omet le récit des circonstances de la mort de John Love à Rome, aux mains des autorités ecclésiastiques. 183. Un jugement prudent comparable explique probablement l'omission de plusieurs mentions de jugements frappant des adversaires, tel le Lord Mayor persécuteur dont George Fox écrivit, And his name became a stink and the Lord K. him of ye. 162, où ses commentaires parfois sévères sur l'abus par les puritains de leurs opportunités, in what they call the Gospel Times e. 237, ainsi que sa conviction qu'ils renouvelleraient leur persécution s'ils en avaient le pouvoir, tout en ajoutant avec satisfaction, But old Cain saw an arm were taken out of his hand and Judah had lost his bag. I. 390. Elwood fut peut-être trop prudent en omettant plus d'un passage intéressant qui pourrait sembler relever de la superstition, certains pouvant être considérés comme la preuve d'une imagination anormale, mais dont un ou deux sont sûrement des exemples des remarquables pouvoirs psychiques d'intuition spirituelle et de sympathie que nous voyons ailleurs à l'œuvre dans la vie de George Fox. Le plus frappant de tous ces passages est peut-être celui qui suit son éclat d'indignation, alors qu'il était prisonnier dans la prison de Derby en 1651, devant la manière dont on mettait à mort des hommes pour des vols de bétail et d'argent, « And two men suffered for small things, and he was moved to admonish them for their theft, to encourage them concerning their suffering, it being contrary to the law of God. And a little after they had suffered their spirit appeared to me, he was walking, and he saw them. » Il est intéressant de noter que, lorsque le journal fut d'abord écrit, les mots « to admonish them for their theft » ne faisaient pas partie du récit. Ils furent sans doute ajoutés plus tard afin d'éviter un malentendu sur l'encouragement que Fox avait donné à ces pauvres victimes de la loi. Parfois, l'intuition accordée à George Fox était plus douloureuse, comme lorsqu'ils sont à Dog Lake Nature chez le clerc écossais près de Stacey, 24, ou lorsque, rentrant en traversant la Manche depuis l'Irlande, où il avait échappé de peu à l'arrestation, il dit « But he felt the power of darkness 20 miles afterwards as he was at sea, 47. » Il fut plus réconfortant lorsque, lors de ses pérégrinations américaines, apercevant depuis son navire côtier une voile étrange qui remplissait les marins d'effroi, il put dire « He felt from the Lord she was not an enemy and would do us no hurry. » 247, et de même, durant le voyage de retour, il fut encouragé par une vision et une indication de même portée. 254. Une autre fois, la prémonition était un avertissement d'un danger à venir, comme lorsqu'il note lors d'un voyage en 1656, « He then felt and saw he was a prisoner about 10 miles before he came to Eve where he was taken, I. 208. Parfois, la prémonition concernait le bien public plutôt que lui-même, comme lorsqu'il note qu'en l'année 1657, il sojourna le monk that he was as a man that bowed under O, P. Oliver protector and had a covering over him, and take away the covering and then he was the man as he was before, as he did fulfill it in a few years after I. 302-303. Si Elwood jugea plus sage d'omettre de tels passages, nous ne pouvons nous étonner qu'il ait fait de même avec un ou deux rêves ou visions curieux consignés par Fox, sa vision de la nature spirituelle de la Nouvelle Jérusalem durant sa longue maladie de 1671, avec sa vision d'avertissement pendant la même maladie, « Soon me deep misery he saw things beyond words to ut, and he saw a black coffin, but he passed over it. » 169. Et le rêve ou la vision encore plus curieux de la même période, à propos de la femme enterrée dans un caveau avec un trésor à ses côtés, y. 175. Nous notons qu'Elwood omet plusieurs cas de guérison consécutifs aux interventions de Fox, parmi lesquels deux cas de femme folle ramenées à la raison I. 140, et un autre d'un enfant grown almost double rendu à une vie normale I. 140-141. Une croyance populaire curieuse que Fox rapporte fut également omise par son éditeur, and it was a noted thing generally amongst people that when he came still he brought rain, and it had been so for many years. And the like observation and expectation they have beyond the seas. When there is a drought, they generally look for the Quaker General meetings, for then they know they shall have rain. And as they receive the truth and become fruitful unto God, they receive from him their fruitful seasons also. I. 273. Plusieurs des passages les plus intéressants du manuscrit du journal, omis dans les éditions imprimées, ont été portés à la connaissance du public grâce à la remarquable série d'eau-fort réalisée pour les illustrer par M. Robert Spence, l'actuel propriétaire du manuscrit. Dans plusieurs cas, des notations assez naïves de l'effet produit par Fox sur ses auditeurs sont supprimées par son éditeur. On en trouve des exemples dans une exclamation telle que « This man is Apple, I. » 340, ou dans la déclaration du cavalier « Here is more people flock after him than are about me Lord Protector's Court, I. » 355, ou encore dans les cris de la foule lorsque Fox est arrêté dans Gracechurch Street « Have a care of him, he is a princely man, I. » 156, l'affirmation du vieux juge à la Barbade selon laquelle George Fox was a very famous man, y. 233, la femme qui s'écria, « He is a worthy man and worthy to be heard, y. » 238, et Elizabeth Trelawney qui dit d'une voix forte, « George is overall, y. » 204. À côté de ces passages, nous pouvons aussi placer le cri de la foule d'étudiants hostiles à Cambridge, lorsque Fox traversa sans dommage leur attroupement à cheval, au 7 des Hishin, y glisté, y. 190. À une page antérieure, Fox avait noté, And as he was walking he heard old people and work people to say, he is such a man as Neve was, he knows people's thoughts. 1. 50 et plus tard, il rapporte au sujet du progrès du cacrisme dans le Monmouthshire. The very justice said Neve such a man came into their country, that had reconciled neighbor to neighbor and husband to wife, and turned many people from their loose lives. 120, il est possible qu'Elwood ait estimé que, dans des passages comme ceux-ci, un adversaire verrait une forme d'égotisme, et un sentiment similaire l'a peut-être conduit à omettre la description par Fox du livre confisqué par les autorités alors qu'il se trouvait entre les mains de l'imprimeur. « It was such a teaching book as hardly was ever given forth, ye. » 7. Ou le récit selon lequel Edward Burroughs aurait dit sur son lit de mort, « If he had been butant or with me he should have been well, ye. » 9. Ailleurs, la main d'Elwood a gommé quelques traits qui paraissaient durs, comme lorsque Fox avait écrit « Mi natural fond, y. » 157 ou « Mi fonder in the flesh » qu'Elwood imprime simplement comme « Mi fonder » dans les deux cas. Note des éditeurs du site, il s'agit d'un étrange changement éditorial, car Fox a une lettre spécifiquement à sa mère et à son père, In the Flesh, ensuite largement publiée également dans ses deux volumes d'épîtres de George Fox. Des adversaires s'étaient moqués de la tenue de cuir de Fox, et c'est probablement pour cette raison qu'Elwood omit des passages tels que celui où un capitaine demanda à Fox, en plaisantant, où étaient ses culottes de cuir. And he let the man run on a while, and at last he held up me coat and said here is me leather breeches which frighten all priest and professor, I. 52, ou encore lorsqu'il dit, sometime they would turn up me coat and see for me leather breeches and then they would be in a rage, I. 170, le récit donné par Fox de la raison de son mariage avec Margaret Fell, I. 154, et du jumble in some minds about it, a pu être omis par respect pour ses sentiments, et peut-être, le souci d'éviter les malentendus a également conduit le bon éditeur à omettre la mention de Margaret Fell et de ses filles rejoignant Fox pour un court moment lors de son voyage en 1663 y. 34, ainsi que celle de ses filles Sarah et Susanna le rencontrant lors d'un autre voyage en 1669 y 135. Pour de nombreuses omissions, il semble n'y avoir eu d'autre raison que le désir d'abréger, bien que cela ait parfois entraîné la perte d'une touche pittoresque, comme lorsque le geôlier de Carlis le bat des amis, as if he had been beating a pack of wool, y 126, ou lorsque l'informateur, en 1670, ne voulut pas dire son nom lorsqu'on le somma de le faire, but began to know his fingé ends, y 157, ou encore les cris des adversaires des réunions silencieuses Quakers, look at these people set mumming and dumbing, y 28. D'autre part, Elwood dut nécessairement omettre de nombreuses lettres, dont certaines, bien que très intéressantes, n'étaient ni écrites par ni adressées à Fox, mais à Margaret Fell par diverses mains, fournissant ainsi incidemment un nouvel indice que le journal fut compilé à Swarthmore Hall. Parmi les lettres omises de Fox, l'intérêt principal s'attache à celles écrites à Cromwell, que Elwood a probablement écartées pour des raisons politiques. En vérité, le lecteur aurait sans doute été satisfait si l'éditeur avait sacrifié nombre des lettres qu'il a effectivement imprimées et nous avait donné en échange de brefs incidents, tels que celui où George Fox, qui ne prenait pas de tabac, montra son « Unity with the Creation » en portant à sa bouche la pipe du jeune fumeur I. 44, ou celui où le fils du bailli de Scarborough vint discuter et lui parla en hébreu, à quoi, nullement intimidé, Fox spoke in Welsh to him and bid him fear God, ajoutant pour nous l'information qu'il « became a pretty friend ». Ou encore un incident aussi curieux que le présage de la chouette précédant la mort de l'informateur de droit Twitch y 168, ou l'histoire de la rencontre entre le jeune Quake et le chevalier ivre Sir Geoffrey Shackerley y 135-136. Il reste à traiter certains passages qui furent probablement omis par Elwood pour éviter des malentendus et des controverses politiques ou théologiques. Parmi les premiers, on peut peut-être inclure l'entretien entre Fox et Sir Harry Vane au château de Raby en 1657 i. 312-316, qui montre que Fox reconnaissait que les opinions de Vane, à une date antérieure, avaient été davantage en harmonie avec les siennes i. 313. Mais les plus intéressants sont sans aucun doute la série de références à Oliver Cromwell que Elwood jugea préférable d'omettre. Ces passages montrent très clairement que George Fox considérait Cromwell, durant les premières années du protectorat, avec confiance et sympathie, comme envoyé par la providence de Dieu pour le bien de la nation, et que cette confiance initiale fut remplacée par un sentiment de déception et d'éloignement. Il est possible que la lettre qui suit immédiatement celle adressée, « To the Reds and General of the Army from G. F. 1652 », et qui commence par « Friend of the truth of God and owner and lover of it, whom God has enlightened », ait été adressée à Cromwell. Elle n'a pas d'annotation, mais son contenu comme le contexte indique l'un et l'autre cette destination. En 1654, nous trouvons Fox envoyant à Cromwell une brève note l'avertissant d'un danger venant d'amis en apparence, i. 160, suivi du remarquable témoignage contre les armes charnelles qui, au lecteur orthodoxe tandux vic du XIX siècle, parut la preuve d'un esprit dérangé ou d'une prétention qu'ils jugèrent blasphématoire, i. 161-162. La confiance que Fox plaçait alors en Cromwell est montrée par une autre lettre de la même année où il s'adresse à lui en l'appelant « Dear Friend », lui donnant un conseil spirituel et lui présentant la perspective que le protecteur devra « have to throw down the rubbish and quell all the bad spirits under son dominion », tandis que Cromwell se voit promettre la bénédiction durable de la paix de Dieu s'il obéit à la direction divine. 163-165. Un peu plus tard eut lieu l'entretien avec le protecteur, qu'Elwood imprima presque sans abrégement, bien qu'il ait omis le commentaire subséquent du capitaine Drury à Fox, « And me Lord say, he say, you are not a fool ». And said he never saw such a paper in his life as he had sent him before be him, I. 168. Lorsque George Fox écrit de nouveau à Cromwell en 1656, concerning doffing hats, le changement de sentiment est manifeste, il parle encore avec révérence de la position de Cromwell lorsqu'il l'exhorte à come down to the witness of God in thee, mais il n'est désormais plus appelé dear friend, seulement friend, I. 217-219. La lettre ultérieure de Fox, To Oliver Cromwell and the Parliam, de 1656, ne contient aucune suggestion selon laquelle leur pouvoir ne reposerait pas sur un fondement juste, mais constitue un long appel à juger avec droiture et à éviter la persécution i. 263-266. Le ton de la lettre est toutefois celui d'un avertissement, et Fox consigne avant de l'insérer, And then O. P. began to harden and several friend was turned out of their office of justice and turned out of the army. Le journal original donne avec plus de détails que l'édition d'Elwood le récit de l'avertissement de Fox à Cromwell de ne pas accepter l'offre de la couronne, « And he met him in the park and told him that they that would put him on a crown would take away his life. And he asked me, what did he say? And he said again that they that sought to put him on a crown would take away his life and bid him mind the crown that was immortal. And he thanked me and bid me go to his house. » 267. Une autre référence à Cromwell de nature plus triste est le passage où Fox raconte comment, après la Restauration, il se tint près du corps déshonoré du grand protecteur à Tyburn et se remémora les paroles d'un vœu d'Olivet au moment de la bataille de Dunbar, vœu dont nous ne semblons pas encore avoir d'autres traces selon lequel, si le Seigneur lui donnait la victoire, il supprimerait les dîmes, or else let him be rolled into his grave with infamy. Il reste peu de traces des sentiments antérieurs de George Fox envers Cromwell dans son récit sombre de la vengeance barbare des cavaliers, « But when the king came and they took him up and hanged him, and buried him under Tyburn where he was rolled into his grave with infamy. And when he saw him hanging there he saw his word justly come upon him, I. 385. » C'est une triste clôture aux espérances des premiers jours, et l'on ne peut s'empêcher de sentir que les souvenirs amés d'emprisonnement répétés et des souffrances endurées dans une centaine de prisons par des prisonniers Quakers pour raison de conscience rendirent Fox quelque peu trop sévère envers l'échec de Cromwell et des chefs puritains, bien que l'on soit heureux de lire ces mots dans un autre passage. « For we did not seek any of their place, gift nor honor but a salvation and eternal good, both in this nation and elsewhere. » Il reste à traiter les passages omis par Elwood afin d'éviter la controverse théologique. Parmi ceux-ci, il faut peut-être aussi inclure le témoignage à Cromwell déjà mentionné, dans lequel Fox parle de lui-même comme de celui « whom the world calls George Fox, who is the son of God, who is sent to stand a witness against all violence. » I. 161. Note des éditeurs du site, le fait que Fox se désigne lui-même comme « le Fils de Dieu » est au cœur de la controverse, mais c'est simplement ainsi que la Bible s'exprime aussi. Rome 8, 14, 1 Jean 3, 2 et Phil 2, 15. « Si je suis l'un des cinq fils de John Smith, et si je me décris comme le fils de John Smith, ma description ne dit pas que je suis le fils exclusif de John Smith, c'est pourtant cette logique fautive qu'emploient les critiques de George Fox. » L'autre déclaration de Fox, que le monde appelle George Fox, renvoie au nouveau nom que chacun reçoit lorsqu'il entre dans le royaume de Dieu. Mais pour ceux qui connaissent mal la Bible, en particulier sans comprendre que le royaume, avec un nouveau nom donné, est possible avant la mort physique, les paroles de Fox peuvent être mal interprétées. Cromwell était un grand étudiant de la Bible, et il ne trouva aucune offense dans les mots de Fox. Au contraire, il en fit des éloges enthousiastes, comme l'a rapporté plus haut le capitaine Drury de Cromwell. « Et Monseigneur dit, il dit, vous n'êtes pas un fou, et il dit qu'il n'avait jamais vu de sa vie un tel papier que celui que je lui avais envoyé auparavant par lui. » 2 ans avant ce remarquable témoignage de 1654 se situe le récit, publié ici pour la première fois, de l'examen de Fox devant le juge Fell et les juges de paix des assises trimestrielles, quarté session de Lancaster. Fox nous dit que le récit a été tiré des « Un vieux livre déchiré » I. 62, qui a peut-être appartenu au juge Fell lui-même. Il était malheureusement incomplet lorsque Fox l'intégra au manuscrit du journal et il a depuis été encore davantage endommagé. Mais malgré cela, il constitue, avec le document qui le suit, une contribution d'une importance capitale à notre connaissance du cacrisme primitif. Il s'agit manifestement d'une transcription de notes sténographiques prises mot à mot lors de l'examen de Fox, accusé de blasphème, nous donnant une image saisissante du banc des juges de paix divisé entre eux, le juge Fell et le colonel West, favorablement disposés envers Fox, examinant de près les contradictions des témoins ou critiquant la légalité des accusations portées contre lui, Sorry et le DR Marshall, désireux d'obtenir sa condamnation I. 63-68. L'importance de l'ensemble du document, pour éclairer les vues religieuses de Fox durant cette période formatrice de l'histoire Quake, est d'autant plus grande qu'il s'agit d'une transcription contemporaine de ses paroles, et non pas seulement de son souvenir de ce qui s'était passé 23 ans auparavant, mis par écrit lorsque ses vues avaient mûri, et que la position théologique des Quakers s'était définie plus clairement. La feuille qui suit immédiatement, I. 68-70, est entièrement de la main de Fox et semble être une réponse contemporaine aux accusations de blasphème portées contre lui. Note des éditeurs du site. J'ai commencé à inclure la transcription du procès mentionné ci-dessus, mais au moment même où la controverse s'envenimait, la page suivante avait été arrachée et avait disparu, laissant tout le dialogue grossièrement incomplet. Pour cette raison, je ne l'ai pas incluse dans la version web du journal. Mais je fais référence aux déclarations controversées de Fox, avec des explications ci-dessous. Il est intéressant de noter que James Neely, qui prend part au dialogue au tribunal, semble s'efforcer d'insister sur la réalité de la communion divine avec le croyant d'une manière qui préfigure ses développements ultérieurs qui lui causèrent, à lui et à ses amis, des tourments siamés. Le danger qui se manifesta dans la triste histoire de James Neely n'avait pas encore été clairement perçu par Fox, et bien qu'il ne nous dise pas, dans son journal, que sa propre attitude aurait été modifiée en voyant la malheureuse erreur de son ami, il est évident qu'il en fut profondément affecté. il est à peine possible de l'imaginer, dans les années suivantes, utiliser le langage du témoignage de 1652 ou de cet examen. Ce n'est pas une tâche facile aujourd'hui, à la lumière sèche d'une théologie scientifique, d'examiner les propos rudes et sans art d'une conviction spirituelle intense qui s'efforçait d'exprimer une profonde expérience intérieure. Fox n'était pas un théologien formé à analyser, à expliquer en termes scientifiques ces grandes réalités dont il avait conscience. Il ne se souciait pas d'abord de l'expression intellectuelle de la vérité, mais de sa réalisation dans la vie pratique. Ses paroles ne doivent pas être prises comme un symbole exact et intelligible de sa pensée, mais plutôt comme des éclairs révélant imparfaitement des profondeurs que le théologien peut décrire mais ne peut sonder. On peut bien imaginer l'horreur ressentie par les docteurs orthodoxes du temps de George Fox devant cette théologie nouvelle, qui n'était en fait aucune théologie, mais la tentative imparfaite d'exprimer des vérités spirituelles intraduisibles qui avaient saisi sa vie. Certains théologiens peuvent oser s'avancer et gravir hardiment ces hauteurs spirituelles où l'humain et le divin se rencontrent, d'autres préféreront au contraire dresser des clôtures sur les pentes du Sinaï et retirer leurs chaussures, sachant qu'ils s'approchent d'un seul saint. Il appartient à l'historien futur du mouvement Quaker de relever ces jalons dans la vie de George Fox, en les lisant en lien avec la vaste masse de correspondances contemporaines conservées dans les manuscrits de Swarthmore aujourd'hui à Devonshire House. D'après ces documents, il est clair que nombre des premiers Quakers, parmi lesquels Margaret Fell et sa famille, pensaient écrivaient au sujet de Fox à cette époque d'une manière qui aurait difficilement été possible pour eux-mêmes ou pour d'autres membres de la Société des Amis à une date un peu plus tardive, lorsque la douloureuse expérience de James Nelly leur avait appris le danger d'oublier que le vase dans lequel brillait la lumière céleste était un vase de terre fragile. Ami, rester bas devint une injonction juste et nécessaire pour accompagner l'exhortation à demeurer dans la lumière. À la lettre de Humphrey Norton à Fox en 1656, imprimée dans ce volume, I-245, est un exemple moins fort que beaucoup dans les papiers ici mentionnés de l'affection intense et presque idolâtrante de ses amis pour Fox. Note des éditeurs du site. Je pense que beaucoup de milliers de personnes ont grossièrement sous-estimé la mesure de l'esprit du Christ qui habitait en Fox. Il existe de nombreuses lettres, mais très peu publiées, qui montrent que Fox était tenu en estime par beaucoup d'autres d'une manière que je ne peux imaginer que pour le Christ lui-même. Pourtant Margaret Fell, très pondérée, et ses enfants le tenaient en une estime que je décrirais comme révérentielle. De plus, je soutiendrai que, bien qu'Edward Burroughs fût un géant parmi les Quakers, sur son lit de mort, il a dit « Si George Fox avait été avec moi ne serait-ce qu'une heure, je serais guéri », et dans une lettre à Margaret Fell, un autre géant, Francis Haugill, a dit ceci « Salue-nous tendrement George Fox, une heure avec lui serait une grande joie pour nous ». Cela apporte une preuve supplémentaire que la mesure du Christ en Fox dépassait celle de tous les autres Quakers. Ce que les gens respectaient, révéraient et adoraient, ce n'était pas George Fox lui-même, mais plutôt la mesure du Christ qui marchait dans son corps, et qui a été grossièrement sous-estimée par ceux qui n'étaient pas capables d'en être même témoins, croyant une telle mesure impossible, en particulier ceux dont l'orgueil enflé ne peut accepter la possibilité que leur état soit si inférieur à celui de Fox. Ou comme le font les auteurs de cette introduction, en l'assimilant à James Naylor, dont la défaillance a tant endommagé les Quakers. Ainsi, pour expliquer le phénomène, les critiques de Fox concluent soit que ses admirateurs étaient illusionnés, soit que Fox possédait quelques pouvoirs maléfiques pour tromper tout le monde, l'imaginant comme une version anglaise de Rasputin. La plupart des principaux écrits de Fox se trouvent sur ce site. Plusieurs de ses grands admirateurs y ont aussi des écrits. Margaret Fell, William Penn, voire aussi son procès, Francis Haugill, George Whitehead, Thomas Elwood et Edward Burroughs, lisez et jugez par vous-même. Avant de quitter ce sujet, il convient aussi de relever un autre passage important dans le récit du procès de Fox à Lancaster en 1664. Après les mots qu'Elwood imprime, « Avant que je n'arrive à la barre du tribunal, je fus poussé à prier pour que le Seigneur confonde leur méchanceté et leur envie, et place sa vérité au-dessus de tout, exalte sa semence », Fox poursuit. La voix tonnante dit « Je t'ai glorifié et je te glorifierai encore, et j'étais si rempli de gloire que ma tête et mes oreilles étaient remplies de gloire. Et alors, lorsque les trompettes et les juges revinrent, ils apparurent tous comme des hommes morts sous moi. » 76. Il est manifeste que ce fut pour Fox une expérience qui signifiait bien davantage qu'un simple rappel des paroles du quatrième évangile, Jean-Xi, 28-29, appliqué à ses propres circonstances. Le dernier passage de cette catégorie est peut-être celui qui figure dans le récit du voyage de retour d'Amérique en 1673. Fox avait remarqué la crainte des marins à l'égard de navires inconnus et avait pris pour qu'ils n'en voient plus avant d'arriver en Angleterre, et il ajoute, Et le Seigneur Dieu dit, « Entre tes mains et en ton pouvoir je t'ai donné le navire. » Et les paroles de Paul me vinrent à l'esprit, et tout ce qui est en lui, qu'il arriverait sain et sauf. Et je dis à la compagnie que je croyais en Dieu. Et je le fis librement. Et en un clin d'œil, il fut redonné, et le Dieu béni nous ramena bien et en sécurité à la maison, Y. 254. Être capturé par des pirates algériens était un sort qui frappait trop souvent le voyageur du XVIIIe siècle. Il était caractéristique de l'ampleur de cœur de Fox qu'il fut prêt à affronter cela lui-même, si par ce moyen, il pouvait épargner le désastre redouté à la compagnie de voyageurs et de marins inconnus sur les navires qui le suivaient. Le manuscrit reproduit ici pour la première fois dans son intégralité, grâce à l'intervention des autorités de la Cambridge University Press, était sans doute considéré par George Fox plutôt comme une matière brute que comme la forme définitive de l'ouvrage à imprimer après sa mort. Mais nous ne pouvons qu'être reconnaissants que, grâce à la libéralité des syndics et aux soins affectueux de son éditeur actuel, il soit possible au lecteur de posséder une transcription exacte de l'ouvrage original, avec toutes ses erreurs. Nous sommes ainsi en mesure de nous faire une idée du caractère de George Fox et de l'histoire de la Société des Amis durant sa vie, ce qu'aucune édition incomplète ne pourrait nous donner. Une importance particulière s'attache à l'éclairage jeté sur les premières années du mouvement Quake par les nouveaux matériaux publiés ici pour la première fois. On a déjà remarqué que l'expérience spirituelle profonde par laquelle passèrent les premiers prédicateurs Quake était une expérience à laquelle ils étaient incapables de donner une expression intellectuelle adéquate. L'opposition qu'ils rencontrèrent de la part d'une orthodoxie scandalisée, qui ne connaissait aucune révélation directe à l'individu et ne pouvait parler que de l'expérience des saints du passé, était en effet inévitable, mais elle fut rendue plus forte par le langage rude et imparfait de Fox et de ses amis, que leurs adversaires ne comprenaient pas. Un esprit sans préjugés comme celui du juge Fell pouvait discerner la saine raison essentielle de Fox, là où un adversaire ecclésiastique comme le D.R. Marshall ne voyait que folie ou blasphème. Ah, mais nous ne pouvons nous étonner qu'il y ait eu incompréhension. En effet, les premiers Quakers semblent parfois s'être presque complus, lorsqu'ils étaient engagés dans la controverse, à placer des obstacles intellectuels sur le chemin de leurs adversaires. Dans les premières années de son ministère, Fox affirma à au moins deux reprises la filiation divine du croyant d'une manière qui devait choquer lorsqu'elle était laissée sans explication. À une période ultérieure, confronté au danger de malentendus quant aux doctrines fondamentales du christianisme telles que les tenaient les amis, il accepta d'exposer avec un soin minutieux sa position théologique, comme le montre sa lettre au gouverneur de la Barbade. À note des éditeurs du site, dans ce procès, Fox avait été accusé par une personne d'avoir dit qu'il était égal à Dieu, ce que Fox nia avoir dit. « Ce n'est pas moi qui ai dit que j'étais égal à Dieu. Celui qui sanctifie est un avec celui qui est sanctifié, ils sont tous d'un. Ils sont un dans le Père et le Fils, de sa chair et de ses os, et l'Écriture en rend témoignage, et vous êtes les fils de Dieu, et le Père et le Fils sont un. » Pourtant, rien n'indique qu'il ait désapprouvé sa position antérieure lorsqu'il entreprit de compiler son journal, et s'il l'avait fait, on peut difficilement imaginer qu'il y aurait incorporé son « témoignage » à Cromwell et le récit de son procès devant les juges de paix de Lancaster, sans ajouter quelques mots d'explication. Note des éditeurs du site. Puisque Fox était dans le royaume au moment où il prononça ces paroles, et puisqu'il a dit très souvent qu'il parlait la parole du Seigneur, il n'est guère surprenant que Fox n'ait pas par la suite modifié ses paroles initiales, car Dieu, ni ceux qui parlent réellement des paroles venant de Dieu, ne parlent de façon inexacte au point que leur déclaration ait ensuite besoin d'être modifiée. M. Harvey, l'auteur de cette introduction, ne saisit manifestement pas la possibilité que quelqu'un sur cette terre puisse être dans le royaume de Dieu, être un avec le Christ et le Père, être dans la présence reconnue de Dieu, entendre les paroles de Dieu, puis prononcer la parole de Dieu à ceux qui l'entourent. Pourtant, c'est exactement ce que faisaient les apôtres, et Fox affirma de façon constante et répétée être dans le même esprit que les apôtres. En conclusion, nous pouvons nous demander dans quelle mesure le journal, tel que nous le possédons aujourd'hui, nous permet de former un portrait exact de Fox en tant qu'homme. Nous gagnons de nombreux petits détails qui, jusqu'ici, faisaient défaut, ici et là. Nous pouvons regretter une certaine note de dureté apparente, ou ce qui semble être une insistance trop marquée sur le rôle personnel de Fox dans le récit. Mais cela est plus que compensé par l'intense réalité de toute la narration, elle est animée d'un sens de la véracité. Fox n'était pas de ces grandes âmes qui ne réalisent pas leur force, il était trop sincère pour cacher ce qu'il voyait et faisait sous quelque manteau de fausse humilité, et il n'y a aucune trace de cela dans son journal. Mais qu'il fût véritablement humble de cœur lorsqu'il était face aux réalités éternelles, nous pouvons le comprendre en lisant les mots mémorables de Penn. Par-dessus tout, il excellait dans la prière. l'intériorité et le poids de son esprit, la révérence et la solennité de son adresse et de son comportement, et la rareté et la plénitude de ses paroles ont souvent frappé, même des étrangers, d'admiration le recueillement le plus impressionnant, vivant, révérencieux que j'ai jamais ressenti ou contemplé, je dois le dire, fut le sien dans la prière. Et cette disposition intérieure n'était pas sans se refléter dans les relations ordinaires de George Fox avec ses semblables, au sujet desquels Penn écrivit. Il menait une vie innocente, pas un remueur d'affaires, ni en quête de lui-même, ni susceptible ni critique, si doux, content, modeste, facile, constant, tendre, c'était un plaisir d'être en sa compagnie. Sous un autre aspect très important, le portrait de George Fox que nous donne son journal est incomplet et doit être complété par la correspondance contemporaine et le témoignage de ceux qui l'ont connu. En lisant son récit, nous ressentons quelque chose du pouvoir magnétique qui attirait ses auditeurs, mais ce n'est qu'ici et là que nous avons un aperçu de ce côté tendre de sa nature dont nous lisons ailleurs. Cher George, il l'était pour un vaste cercle d'amis, avant comme après sa mort, et même les froids procès-verbaux de la Morning Meeting utilisent les mots « cher George Fox » pour exprimer le sentiment qui venait intuitivement à l'esprit des hommes lorsqu'ils pensaient à leur cher aîné. Le journal ne donne guère plus qu'une indication de sa forte affection familiale. Sa mère, au chevet de laquelle il se rendait en 1673 lorsqu'il fut arrêté et jeté dans la prison de Worcester, était si étroitement attachée à son fils qu'elle ne se vécut pas au choc de la nouvelle, fait que nous apprenons maintenant pour la première fois. Ses belles-filles et leur mari l'aimaient et le révéraient tous, écrivant habituellement de lui comme de leur père. La profonde affection de son épouse pour lui est bien connue, tandis que le journal fait à peine allusion à leur vie conjugale, et nous devons nous tourner vers des... On peut regretter qu'Elwood ne cite que quelques-unes des lettres écrites par Fox à celle qu'il appelait son « cher cœur », et qu'il n'ait trouvé place pour aucun autre témoignage de leur heureuse vie de famille. Mais cela était en effet inévitable du fait même de la nature du journal, qui n'a jamais eu l'intention d'être une autobiographie au plein sens du terme. Pourtant, si l'image que donne le journal est nécessairement incomplète, elle est plus vivante et convaincante que main, portrait plus complet que d'autres écrivains ont laissé d'eux-mêmes. À mesure que nous en lisons les pages, se détache clairement devant nous la grande et forte personnalité de son auteur, avec toute sa sagacité et sa simplicité, son infatigable dévouement à son message et son pouvoir de le transmettre à d'autres. Le feu du prophète, le conseil du sage, le récit émouvant d'épreuves courageusement supportées, des touches singulières et familières de bonté humaine, tout est là. T. Edmund Harvey, introduction de l'éditeur. 1. Histoire. Les divers documents mis sous presse dans les pages suivantes faisaient à l'origine partie de la collection de manuscrits rassemblés et conservés à Swarthmore Hall, à Furness, dans le nord du Lancashire, demeure de la famille Fell et aussi de George Fox après son mariage avec Margaret Fell. Dès le début de son lien avec le mouvement Quake, Margaret Fell entretint une vaste correspondance avec les ministres itinérants et d'autres personnes qui avaient besoin de conseils ou qui désiraient l'informer des progrès de leur œuvre, et heureusement pour l'historien, un grand nombre de ces lettres et d'autres documents furent soigneusement déposés dans la salle des archives, une chambre forte fortifiée du rôle. À la mort de Margaret Fox, née Fell, ses papiers de Swarthmore furent mis en sûreté par la plus jeune fille, Rachel, et son mari Daniel Abraham, qui résidait à Swarthmore. Plus tard, ils entrèrent en la possession de John Abraham, leur seul enfant survivant. Lors de la vente du domaine de Swarthmore en 1759, les papiers furent dispersés parmi divers membres de la famille. Des portions de la collection sont encore en la possession des descendants de John Abraham et d'autres membres de la famille. 3. Époque et lieu de rédaction. On a généralement affirmé que le journal fut écrit à la prison de Worcester pendant l'emprisonnement de George Fox et de Thomas Lowe entre le 10e mois 1673 et le 12e mois 1674. 5. Charles J. Spence écrit « Il ne peut guère y avoir de doute que le journal ait été dicté par George Fox à son gendre Thomas Lowe, et il existe quelques indices dans sa disposition qui montreraient qu'il fait partie des nombreux écrits entrepris pendant le long emprisonnement à Worcester, où Thomas Lowe était son compagnon constant, essayiste and Friend Review, 1893. Nous savons que l'emprisonnement de Worcester fut une période d'activité littéraire, voire I, 311-485. Lowe écrivit à sa femme depuis Worcester, XI, 1673 Janvre, 1673 4. J'ai tout juste le temps d'obtenir un peu de loisir à cause des nombreux visiteurs que nous avons et des nombreux papiers à écrire. Webb Fells, 1865, p. 287. D'après des indices internes, I, 41. 2. Le journal ne pouvait pas avoir été écrit avant août 1674, ce qui ne laisse que 3 mois entre cette date et le départ de Lowe peu avant la libération de Fox, en février suivant. Fox déclare qu'il fut envoyé prêcher l'Évangile, et y est continued ses 27 years, 250, ce qui placerait la date de cet écrit en 1674 ou au début de 1675, si nous comptons 1647 comme l'année d'ouverture de son ministère. Il est tout à fait possible qu'un certain travail préparatoire ait été effectué à Ouste, mais d'après les indices internes, il est clair que le journal n'a pas pu être achevé avant la libération de Fox en 1674-5. AI 105, 3 Barbara Fleming mourut en avril 1675. BI 111 de 292 John Wilkinson mourut XI, 1675, CI. 312 dans la marge d'une page numérotée apparaît la date 1676, écrite semble-t-il en même temps que le reste de la page. DI 325 maintenant 1676, les annales des années 1649 à 1657 sont écrites sur des pages numérotées, après la clôture de la partie narrative, mais l'écriture de l'œil est quelque peu différente. EI 338. 3. Cette vue d'ensemble de l'essor et des progrès de la vérité semble avoir été écrite à peu près à la même époque que le récit, le filigrane du papier est le même, et elle se termine par cette IE 1676. FI 312. La date la plus tardive est traitée mentionnée ici sur des pages numérotées comme écrit à Swarthmore est le 7e mois 1676, mais voir I 312. 15. Rien n'indique une rupture qui pourrait signaler un changement de lieu. Il est peu probable que Fox ait eu avec lui à Oust les divers papiers mentionnés dans la première partie du récit, 62, 116, 163 comme alors disponibles. Il semble donc plus probable, faute de tout élément externe connu, que l'ensemble de la partie narrative ait été rédigé à Swarthmore durant le temps libre de la visite de Fox de Yves, 1675 à I. 1677, lorsqu'il était entouré de nombreuses aides personnelles et littéraires importantes, et conformément à sa propre déclaration. Comme beaucoup de choses reposaient sur moi à écrire, tant pour le service public que privé, je ne sortais pas beaucoup mais lorsque les amis n'étaient pas avec moi, je passais assez largement mon temps à écrire des livres et des papiers pour le service de la vérité, édition imprimée. Addendum des éditeurs du site, je comprends aussi que Fox, bien avant sa mort, avait déjà choisi Elwood comme éditeur de son journal, et qu'Elwood fut l'un de ceux qui passèrent plusieurs mois avec Fox en étroite consultation à Swarthmore. Il est également rapporté que Fox séjourna chez Elwood lors de ses voyages. Cela expliquerait les nombreuses lettres et les déclarations qui ne figurent pas dans le journal manuscrit, mais qu'Elwood a fourni pour publication. Cette série de manuscrits a été, selon le récit historique donné plus haut, conservée dans son état actuel pendant de nombreuses années. C.J. Spence écrit « Le journal proprement dit n'a été ouvert à l'imprimeur qu'une seule fois », depuis qu'il a été initialement édité pour le premier in-folio de 1694. Ce fut au cours d'une controverse qui divisa la société dans la première moitié du siècle présent la controverse Beaconite, 1836. L'accès aux manuscrits fut alors accordé à certains des disputants, et des recherches attentives furent menées pour y trouver toute matière susceptible d'affaiblir l'autorité des premiers amis et essayistes Unfriend Review, 1893. L'un des disputants susmentionnés était Elisha Bat de l'Ohio, USA, qui publia en Appeal to the Society of Friend en 1836 et 425. Dans une introduction à ce pamphlet, Robert Benson déclare que les manuscrits du journal soient authentiques, c'est un fait qui ne souffre aucun doute, il porte en eux une preuve indéniable à cet égard, tant interne qu'externe. 4. Authenticité. Il ne fait aucun doute que les parties narratives des manuscrits, à l'exception de la paix, 17 jusqu'au milieu de la paix, 20 et peut-être aussi, des 16 pages perdues ont été écrites par Thomas Lowe, 1633-1720, beau-fils par alliance de George Fox. Elles sont de la même main que de nombreux papiers et lettres signés de lui, conservés en D. Et ailleurs, et l'on sait bien qu'il était avec George Fox à Ouste et aussi à Swarthmore, près duquel il avait une résidence. L'auteur des toutes premières pages est inconnu, mais le papier utilisé présente le même filigrane que celui sur lequel Lowe poursuit, et Lowe a ajouté et corrigé ses pages. L'écriture sur les feuilles numérotées a probablement été faite à des périodes assez consécutives, avec des indices de hâte comme si la matière avait été dictée, puis plus tard ces feuilles ont reçu correction et ajout de l'eau dans un style plus petit et plus droit. À l'exception d'environ une douzaine d'endroits par au plus deux mains contemporaines, 135N, 137N, 182N, 285N, 188N, 299N, I1N, 36N, 80N, 130N, 165N, 170N, Le travail de Lowe n'a pas été modifié, nombre des documents ajoutés portent une mention de Lowe, et beaucoup montrent des indices de ses corrections et ajouts, voire PX I1-2-1-68-3-72-1-75-1-295-2-367-1-360. Contrairement à l'attente générale, il y a très peu d'écriture de Fox lui-même dans son journal. Un seul document a été entièrement écrit par lui, I-68-3-72-1-75. 3 et ce n'est qu'occasionnellement que quelques mots de sa main apparaissent I, 343, 1 I. Dans 5, 159, 1, 288, 4, mais de nombreux papiers et lettres ont reçu sa mention d'approbation, voire PXI 5, 168, 377, 116, 220, 178, 206, 239, 263, 3, 301, 372, 3i 20, 43, 57, 172, 102, 259, 196. Le seul endroit où l'écriture de Fox et celle de Lowe apparaissent sur la même feuille, hors mention d'approbation, est I, 105. 1. En excluant les lettres autographes et les papiers testamentaires, on estime que les deux volumes contiennent environ 50 écritures différentes, 30 dans l'un et 20 dans l'autre. Parmi les auteurs identifiés figurent Sarah Fell, Bridget Fell, Ellie Rooks, Gervas Benson, John Stubb, Richard Richardson, Mark Swaney. Il n'y a aucune apparence d'écriture moderne sur aucun des manuscrits du journal. Le journal, tel qu'il est imprimé ici, montre peu, voire aucun, indice d'avoir été précédé d'une forme quelconque de journal intime, rédigé régulièrement, bien qu'Elwood affirme que Fox lui-même tenait un journal, édition Elwood, à la fin, mais en dictant l'histoire de sa vie, Fox pouvait sans doute s'appuyer sur des notes de voyage et d'autres documents, y compris des lettres originales. Des mémorandums de la main de Fox sont conservés en D, mais la plupart se rapportent à des événements postérieurs à 1675 et comprennent les « Little Journal Books » mentionnés I, 348. De nombreux documents et lettres se trouvent parmi les manuscrits du journal, auxquels on a eu recours lors de la compilation du journal, voire I. 63, 67, 68, 160, 299, 367, 375, 378, I. 43, 48, 57, 60, 72, 85, 89, 102, 137, 159, 167, etc. Outre les sources ci-dessus, il existe en D, un manuscrit portant une mention de Fox et généralement connu sous le nom de Short Journal, qui contient un relevé ordonné de son œuvre et de ses souffrances jusqu'à l'année 1664, William C. Braithwaite, dans son ouvrage à paraître, Beginning of Cacrisme, en cite certains passages et note la similitude entre ceux-ci et des passages du Great Journal. 5. Préparation pour l'impression. Dans ses dispositions testamentaires, George Fox mentionne The Great Journal of My Life, Sufferings, Travels and Imprisonment. 347, sans doute en référence au récit dicté qui précède, et il désigne certains amis pour veiller à son impression. Dans les procès-verbaux de la Morning Meeting, l'organe des amis chargé d'examiner les MSS. Manuscrits et d'approuver ou de désapprouver leur impression, peu après la mort de Fox, nous apprenons que le travail de transcription pour la presse a été entrepris par Thomas Elwood, et au second mois 1692, Elwood déclare qu'il « has transcribed about 200 sheets » et « got no further than 1666 ». Deux mois plus tard, un procès-verbal énonce le titre proposé de l'ouvrage « The History of G. F. S. Journal and Progress in the Lord's Work intitulé The Everlasting Gospel Preached Again, and Truth's Progress in His Latter Day Powerfully Witnessed in the Great Labour Travels Trials and Sufferings of the Antien F. Faithful Servant and Minister of Christ George Fox LD, who departed this life in peace, 13th Day of the 11th Mo, 1691. Il y eut toutefois de nombreux retards, la transcription prit plus de temps que prévu, et avant que la copie ne soit remise à l'imprimeur, elle fut soigneusement lue et relue afin, comme Elwood l'écrit, that nothing may be omitted fit to be inserted, nor anything inserted fit to be left out, Barclay et T.P. 213, voire Frien de Quarterly Examiné, 1902, de sorte que, comme le dit William Penn, it might not sound uncouth and unfashionable to Nicias. L'un des objets du présent travail est de présenter le journal tel qu'il a été d'abord écrit, et non tel qu'il a été adouci et modifié par Elwood et les comités éditoriaux. La grandeur native de Fox s'affirme de façon convaincante à travers toute la rudesse du Great Journal, et s'il y a des touches d'importance personnelle et un langage mystique extravagant, nous sentons qu'elles aussi, dans les conditions de l'époque, sont une part naturelle, telle que nous nous attendrions à la trouver, de sa personnalité dominante. W.C. Braithwaite, Beginning of Cacrisme. Une preuve supplémentaire que les manuscrits de Spence ont servi de base à l'édition Elwood se trouve dans le changement de style perceptible en cette dernière vers l'année 1675. Lorsque le Great Journal se termine à partir de ce moment, on observe une prédominance de matière épistolaire et de simple itinéraire, à propos de quoi Elwood écrit « Sophie years remain still to be digested, yet being the latter part of his time he will yield less matter than the former years have done Barclay. » 6 p. 213, 6, édition imprimée, le journal ainsi édité paru en 1694, voire à ce sujet I, 109, 4, 349, 2. Des éditions ultérieures furent publiées en Angleterre en 1709, 1765, 1827, 1836, 1852 et 1891. avec des réimpressions en 1901 et 1902 et en Amérique en 1800, 1808, 1831 et 1833. Mais il ne semble pas que les manuscrits originaux aient été consultés lors de la préparation de l'une quelconque de ces éditions ultérieures. 7. Collation avec les éditions imprimées. Un soin considérable a été apporté à la collation du journal manuscrit avec la version d'Aylward, et l'on a tenté de distinguer la matière omise de cette dernière, et donc imprimée ici pour la première fois, en l'encadrant de crochets. L'étude de ces omissions nous permet de les classer sommairement comme suit, référence personnelle à Fox, le plus souvent élogieux, I, 1, 2, 13, 15, 20, 26, 41, 43, 50, 52, 61, 62, 107, 114, 125, 140, 162, 168, 185, 190, 204, 208, 267, 273, 274, 267, 307, 340, 305. Déclaration faite, mais ensuite mise en doute ou réfutée. I 9, 14, 39, 107, 149, 180, 181, 184, 187, 189, 190, 194, 196, 200, 201, 205, 210, 231, 242, 243, 255, 269, 308, 310, 353, I 33, 284, usage curieux superstitieux. 104, 210, 293, omission de nom dans certains cas ceux d'anciens amis. I 10, 40, 44, 56, 198, 245, 291, 308, 357, 386, I 324, 125, 133, 156, 158, 162, 169, 176, 197, 212, 262, 312, omission de date, 224. Déclaration concernant des personnes, pour diverses raisons, indésirables à imprimer. I 29, 41, 44, 51, 79, 166, 281, 183, 231, 245, 302, 343, 360, 384, I 1, 4, 8, 42, 162, 163, 284. Référence à des documents omis de l'édition Aylward. I 62, 79, 360. Longues omissions de la partie narrative, I 140S, 285S, 312S, I 135S, 153S. Il faut garder à l'esprit, pour ceux qui utilisent cette édition du journal de George Fox, qu'il s'agit de la reproduction imprimée d'une certaine collection de manuscrits et qu'elle n'est pas fondée sur des éditions du journal précédemment imprimées, et en particulier que le texte de cette édition ne couvre que la période de la vie de Fox de 1650 à 1675. 8. Notes concernant le calendrier. Il convient de mentionner que, jusqu'à l'année 1752, ce que l'on appelle le calendrier julien, selon lequel l'année commençait le 25 mars, était en usage dans les îles britanniques, tandis que d'autres nations d'Europe occidentale calculaient l'année selon le calendrier grégorien, qui faisait commencer l'année le 1er janvier. Pendant plus d'un siècle avant l'introduction de ce dernier calendrier, les dates du 1er janvier au 24 mars inclus étaient souvent données selon les deux calendriers, ainsi, 16 janvier 1656-7. Mais les Quakers écriraient premier mot, 1656-7, en omettant le nom du mois du dieu païen. Ces auteurs qui écartèrent les noms des mois, dont certains avaient une origine païenne, et qui décrivaient les mois par des numéros, commencèrent l'année avec mars et appelèrent tout ce mois premier mois, bien que, selon le calcul julien, seuls les sept derniers jours fissent partie de la nouvelle année. Les amis suivirent l'exemple d'autres corps non conformistes, c'est pourquoi la bonne compréhension de ce mode de compu est essentielle pour l'étudiant des 100 premières années de l'histoire Quake. Vers le journal, vers l'introduction de William Penn, vers les pièces tirées du Cambridge Journal, vers l'introduction de Margaret Fox au journal.